Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Notre histoire s'écrit avec des lieux, Saint-Malo, Besançon, Aubervilliers, Lens, le pont du Gard et Trappes. Elle s'écrit aussi avec des dates, bien sûr, qui se répondent, ce sont les choses trappes du temps. Et elle est peuplée de gens, de leurs paroles, de leur silence. Ainsi parlait ma mère, dans Les yeux du ciel, Voyage au bout de l'enfance et Le silence des pères. Rachid Benzine, islamologue, dramaturge et romancier et fou d'histoire. Le pianiste est penché sur son clavier, ses bras tombent sur l'instrument, épuisé comme vaincu. Ses mains sont cachées par l'immense piano dans la salle de concert de l'Opéra de Cologne. L'auditoire reconnaît les notes de la sonnerie annonçant habituellement le début d'un concert. Le silence se fait. Bonjour Rachid Benzine.
Bonjour.
Je lisais les premières lignes de votre roman, Les silences des pères. Et là j'arrête parce que je vous demande, qu'est-ce que nous entendons ?
Nous entendons le concert de Cologne, 24 janvier 1975, le fameux concert de Keith Jarrett qui revenait de Lausanne et qui est fatigué, qui demande un piano. Il avait demandé un piano, on lui donne un Bösendorfer. Il ne sonne pas suffisamment bien à ses oreilles. Les aigus sont stridents, il dit ça sonne comme un clavecin. Et donc il doit faire un concert et il va improviser pendant 1 h 6 min. Cet enregistrement ne devait jamais exister. Il arrive que le technicien qui était en place l'enregistre simplement pour les archives, sur la question de l'histoire. Et cet enregistrement qui ne devait jamais exister a été retravaillé un peu en studio et c'est devenu l'album le plus populaire de jazz. Et Keith Jarrett m'intéresse notamment sur la place du silence, sa manière de jouer, où le silence lui-même fait partie du morceau, et même quand il termine un morceau, le silence en fait partie.
Nous comprenons, Rachid Benzine, pourquoi Keith Jarrett est là, avec ses silences, dans un roman qui s'intitule « Les silences des pères ». Mais alors étonnamment, ça ne nous conduit pas à Cologne, là où a eu lieu le concert, mais alors complètement ailleurs, à Trappes.
Oui, absolument, dans une cité au 11e étage, où le narrateur se souvient de son père taiseux, silencieux, qui écoute cette cassette en boucle. C'est le seul album que ce père immigré écoutait. Et puis d'un seul coup, en écoutant, il y a une espèce de résonance, il y a quelque chose qui se lie avec cette musique qui lui parle, et c'est ce moment à lui, son monde à lui, parce que il y a quelque chose qui, entre la musique de Keith Jarrett, la place de ce piano et ce père, il y a quelque chose qui résonne et le fils va essayer justement d'essayer de comprendre, de se ressouvenir de la question de la mémoire, la question de tout ce qu'il a pu oublier, commence à émerger ce fils qui s'était éloigné de son père pendant 22 ans et qui revient le jour de sa mort.
Un père taiseux. C'est la vraie question hein, sur la transmission de la mémoire familiale principalement. Si les parents ne disent rien, cette mémoire-là est difficilement véhiculée, les grands-parents parfois, d'autres membres de la famille. Dans votre cas, Rachid Benzine, il y avait une mémoire familiale transmise ?
Oui, en tout cas, il y a une mémoire familiale qui a été transmise, mais d'autant plus que moi, je suis né au Maroc et je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans. Et donc, la question de l'exil, même au niveau de l'enfance, vous amène dans ce rapport, je dirais, à la mémoire. Et j'ai beaucoup travaillé sur le philosophe Paul Ricoeur dans Mémoire, Histoire et Oubli, qui commence, en tout cas cet ouvrage commence en disant « Je suis stupéfait par le trop-plein de mémoire d'un côté et le trop d'oubli de l'autre. Ce que je cherche, c'est de travailler l'idée d'une juste mémoire. » Et donc la question de l'oubli, la question du souvenir, la question de quels sont les souvenirs, je dirais, que nous gardons, comment nous retravaillons globalement notre question de mémoire et qu'est-ce que nous acceptons individuellement et collectivement d'oublier, parfois par le refouler, parfois un oubli volontaire et toutes ces vies, tous ces récits manquants qui n'opèrent pas suffisamment dans une société et qui sont mis à la marge. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment ce qui est mis à la marge, ce qui est invisibilisé, ce qui n'existe plus, ces vies minuscules viennent, lorsqu'elles sont mises en récit, parce que j'estime que toute vie mérite récit, comment ils viennent réinterroger notre rapport à l'histoire, notre rapport à la mémoire, parce que la mémoire, elle est politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un État va décider de commémorer tel lieu, tel espace ou telle figure. Et donc, on voit bien que, en travaillant, notamment à travers le roman, la question de l'intime, par le récit, par l'histoire, par la mémoire, par cette question d'oubli, il y a quelque chose qui relève du politique.
Parce que faire la liste de tous les souvenirs, c'est faisable. Hein. Je me souviens. Mais vous, Rachid Benzine, vous ajoutez à cela, c'est mystère, c'est mais de quoi je ne me souviens pas, de qu'est-ce que je devrais avoir comme souvenir et que je n'ai plus.
Absolument, et c'est vrai, la question est déjà Michel Foucault dans ses travaux, il montrait que toute société s'organise avec un triptyque, il y a ce qui est pensable, il y a ce qui est impensable, il y a ce qui est impensé. Et donc, comment on passe de l'un à l'autre et comment on convoque et comment une société globalement se transforme. Et en même temps, ce que je dirais, c'est dans la question de la transmission, qu'est-ce qu'on transmet et qu'est-ce qu'on ne veut pas transmettre? Et que la question de ne pas vouloir transmettre des drames, de la douleur, est quelque chose qui a été très très partagé par ces hommes, par tous les drames du XXe siècle, où beaucoup de parents ne souhaitaient pas du tout donner en héritage une souffrance, tout simplement pour libérer. Et donc, ces silences font que le fait que ça soit pas dit, ben, ça crée beaucoup de mystères, ça crée beaucoup d'interprétations, je dirais, chez les enfants. Et quand cette histoire-là n'est pas reconnue dans les manuels scolaires, quand cette histoire-là ne trouve pas des lieux de mémoire, pour reprendre une expression, je dirais, d'un sociologue et historien sur Pierre Nora, sur les lieux de mémoire qui constituent la société française, et que dans son ouvrage, Les lieux de mémoire de Pierre Nora, je dirais, les lieux de mémoire de l'immigration sont les grands oubliés. Donc il ne prend pas suffisamment en compte cette donnée. Or, cette question de l'immigration et cette question de l'exil, elle fait partie de l'histoire de France et donc il s'agit tout simplement de lui donner la place qu'elle mérite, non pas dans un esprit, je dirais, de revanche, non pas dans un esprit de réparation, mais tout simplement que cette mémoire-là, elle est vivante et que c'est important que les Français puissent aussi s'en saisir.
Les lieux de mémoire de Nora, c'est le milieu des années 1980 jusqu'aux années 90. Et bien sûr, depuis, les lieux de mémoire ont changé parce que c'est notre histoire et notre mémoire qui évolue à travers le temps. Il y a ce que l'on ne souhaite pas transmettre et que l'on tait. Il y a ce que l'on souhaite transmettre et que l'on raconte. Et puis, il y a aussi parfois ce que l'on transmet sans vouloir le transmettre tout simplement parce que, on laisse des traces.
Absolument, c'est-à-dire que en fait, la transmission, ce sont souvent les non-dits et inattitudes. Et il y a effectivement des traces, mais des traces qui s'effacent au fur et à mesure, qui deviennent invisibles. Et on voit bien ici le narrateur, quand il va à la quête de ce père qui pour lui est inconnu, quand il commence à trouver des cassettes audio, quand il commence à débarrasser l'appartement, il trouve des cassettes d'enregistrement où son propre père racontait aux siens restés au pays ce qu'il vivait avec des lieux, je dirais, Lens, Besançon, Le Gard, et d'autres lieux où ce père se raconte. Et parce que ce narrateur passe, prend sa voiture et va à la découverte de ces lieux et des amis. Et en fait, il trouve des lieux qui n'existent plus quasiment. C'est ce que j'appelle une géographie du silence quand vous allez dans le nord de la France avec les mines qui n'existent pratiquement plus. Vous avez quelques petites traces comme une espèce de muséologie pour dire il s'est passé sur cette terre quelque chose qui a structuré la conscience collective française. Les usines LIP, vraiment la première usine autogérée par les ouvriers, quelque chose qui est assez formidable. Dans le Gard, il y a, lorsqu'il va à la rencontre d'un ami qui s'appelle Mohand, qui était l'ami de son père, il arrive dans un espace de champ dans lequel les Harkis avaient vécu. On a enterré des enfants sur ces lieux, sans sépulture. Donc il y a aussi la question d'un silence qui est là, globalement, collective. Et c'est à partir, je dirais, de ces silences qu'il s'agit d'exhumer une part d'histoire, une part de mémoire. Et ça, je trouve, c'est le travail à la fois, je dirais, des historiens, mais aussi des sociologues, mais aussi des romanciers, à travers ce que j'appelle cette rhétorique du sensible au service du sens, de se saisir d'un objet de l'histoire. Et j'ai toujours, dans une discussion que j'avais avec Paul Ricoeur, il disait que l'histoire est quelque chose de trop sérieux pour la laisser uniquement aux historiens.
Ce qui est très très juste. Bah oui, voilà, faut faire très attention avec la mémoire et l'histoire parce que ce sont des objets très difficiles à cerner, mais dans le même temps, dont on ne peut pas se séparer, ne serait-ce que pour notre identité. Vous savez, Rachid Benzine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, puisque nous aimons l'histoire, nous sommes équipés d'un magnétocassette.
ذكي وأريد أسعار رائعة إلى ومخفضة بمناسبة شهر رمضان المبارك وخاصة
Je t'embrasse. Je suis heureuse, ma fille. Je te souhaite d'obtenir bientôt un logement. Cet été, j'ai envie de te voir, si tu le peux, pour le grand Aïd. Je voudrais te voir avant la mort. On ne sait jamais si la mort vient, je ne te verrai pas. Je ne t'envoie que des pensées de bonheur, que Dieu ne te les enlève pas. On va bien, on est bien. Mes enfants sont à mes côtés, n'aie pas peur. Louisa est venue, Shérif est venu, Saïd est venu. Je reviens de chez Saliha, elle t'embrasse. Ils t'embrassent tous, Tahar t'embrasse. Il attend que tu aies ton appartement et il viendra chez toi. Tu nous manques. On est tranquille, nous allons bien.
La cassette documentaire de Soufiane Adel. Rachid Benzine, parlez-nous de ces cassettes. Donc des cassettes qui étaient réalisées par des gens installés en France et qui les envoyaient comme on envoie une lettre au pays.
Absolument. Moi, dans ma propre famille, mon père qui arrive au début des années 70, nous, le regroupement familial se fait 8 ans. Plus tard, en 1978, le 20 mars 78, à Trappe, je m'en rappellerai toujours, mon père envoyait des cassettes audio à ma propre mère, parce que ma mère ne savait ni lire ni écrire, et donc on entendait sa voix, on entendait ce qu'il vivait. Donc ça commence vraiment les premiers quarts d'heure, vous avez des invocations, je dirais, musulmanes, coraniques, etc. Puis, est-ce qu'un tel va bien? Est-ce qu'un tel va bien? Et donc, du coup, toute la famille passait, et il donnait ses nouvelles. C'était les lettres de l'époque, en tout cas, et beaucoup d'enfants de l'immigration, dans les années 60-70, ont connu ces cassettes, et donc ça permettait d'entendre une voix, la voix de votre père jeune, et parfois la voix de votre père avant votre naissance. Et c'est ça qui me semble important. Et c'est ce que fait le narrateur. Le narrateur découvre la voix de son père parce qu'il y a, ça raconte 50 ans d'immigration, 50 ans de lieu, de mémoire, parce que c'est un voyage de la mémoire, mais on traverse la mémoire comme on traverse un pays. Ce père qui se raconte, qui raconte ses amitiés, qui raconte aussi ses peines, qui raconte ce qu'il découvre, puisque le jour où il arrive, il va travailler dans les mines, donc du coup, dans une profondeur de 1000 mètres, ce qu'il n'a jamais connu. Il va travailler aussi dans la cimenterie, il va travailler au niveau de l'usine, et d'autres. Et donc, du coup, on voit, à travers la voix, de, je dirais, de cet homme, un homme qui se raconte. Et c'est intéressant, parce que cet homme qui se raconte à son propre père resté au pays, ce récit-là, le fils ne l'a pas eu. C'est comme si, finalement, dans la question de l'exil, il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose qui relève de l'intraduisible, comme si les mots étaient insuffisants, n'étaient pas du tout à la hauteur pour dire ce qui arrivait. Et je crois que je mets ça dans le roman Les Silences des Pères, Walter Benjamin, historien et philosophe, qui réfléchit sur la question des drames du XXe siècle, qui réfléchit globalement sur l'histoire et les ruines de l'histoire. Il a cette belle expression, il dit « Le silence est la réponse au chaos du monde ». Comme si finalement, il y avait une impossibilité à dire, et on l'a bien vu aussi au niveau de la Shoah, le retour des rescapés, il y avait une impossibilité à dire. Et en même temps, cette impossibilité à dire, il fallait à un moment la dire. Et la question qu'on se pose, c'est quand on traverse des drames de l'histoire, qu'est-ce qui fait que chez l'être humain, il y a une impossibilité à raconter au-delà, je dirais, du drame. Et en tout cas, pour moi, une des pistes de travail, c'était la question de la douleur. C'était la question du drame pour ne pas... J'avais rencontré un homme qui m'avait raconté un peu sa vie et je lui ai dit « Mais est-ce que vous avez raconté ça à vos enfants et à vos petits-enfants ?» Et il a eu cette très belle expression, il a dit « Non ». Et je lui ai dit « Mais pourquoi vous ne l'avez pas raconté ?» Il m'a dit « Je ne voulais pas leur dire le cartable de mes enfants avec des pierres. » Et là, on voit qu'il y a une espèce d'incompréhension, je dirais, entre les enfants et les parents, parce que beaucoup d'enfants pensent qu'il y a quelque chose qui relève de la lâcheté, parce qu'il y a eu tout un discours en disant « Vos parents ont courbé les chines, vos parents ont rasé les murs. » Et en fait, quand vous travaillez sur les archives, quand vous allez sur les lieux, quand vous prenez des témoignages, vous vous rendez compte qu'ils ont participé à la condition ouvrière, aux luttes ouvrières, au combat ouvrière, et qu'ils se sont appropriés un pays par la lutte ouvrière. Et c'est très intéressant, parce que pour nous, ça pose la question du collectif. C'est-à-dire qu'ils étaient inscrits dans quelque chose qui est du collectif. Et la question du collectif suppose, à un moment, l'idée de pouvoir se sacrifier pour les autres. Et c'est ce qu'ont fait ces pères. C'est-à-dire que, globalement, ces pères ont délaissé complètement leurs rêves, ont délaissé complètement, je dirais, beaucoup de désirs, tout simplement parce que leur réussite passer par leur propre sacrifice. Leur propre sacrifice, c'est la réussite de leurs enfants. Et que je trouve ça très important à un moment de se dire comment les enfants, ont une dette de sens vis-à-vis de leurs parents. Et que à partir du moment où toute vie mérite récit, où ces pères sont devenus des taiseux silencieux, comment raconte le silence ? Comment raconte le silence ? Comment raconte le silence en, quelque part en respectant l'idée du silence. Et c'est ce que j'ai essayé globalement moi de faire dans ce roman, à la fois avec la musique de Keith Jarrett, parce que le narrateur est un pianiste qui doit absolument enregistrer les suites de Bach, à Berlin, et qui pensait venir simplement 3 jours, et puis d'un seul coup qui se retrouve pendant 15 jours en train de sillonner complètement, la France. Et un ami pianiste me faisait, il y a quelques jours, lors de la présentation de ce roman, me faisait cette remarque. Il me disait, le père écoute Keith Jarrett, et Keith Jarrett, c'est la question du silence, c'est le jazz, et il y a beaucoup d'improvisation, il n'y a rien qui est écrit. Et le fils, lui justement, qui est devenu un pianiste, il a des partitions. Et donc du coup, il a la place de l'écrit chez le fils et la place de l'improvisation sur la question du silence. Et ça m'avait beaucoup marqué sur le besoin de notes écrites, suite de Bach et autres, avec toutes les notes. On a besoin d'écriture et il y a très peu de silence, globalement aussi dans la musique classique, sauf chez quelques-uns. Et la place du silence dans la musique de jazz, cette idée d'improviser. Et c'est parce que Keith Jarrett, au début, a des contraintes en termes de silence, de notes qui ne sont pas dites, de notes qui ne sont pas entendues, que c'est à partir de là qu'il fait de ce concert de colonnes un chef-d'œuvre. Et donc, la question de la place du silence, c'est est-ce que c'est pas à partir de ce silence-là, effectivement, il peut avoir des effets néfastes, comme j'ai essayé de le mettre avec cette citation de Paul Auster au début, « Le silence oblitère tout ». Voilà. Mais est-ce que globalement, cette idée de silence, c'est pas ce qui a permis aux enfants à un moment de parler? Est-ce que lorsqu'on a un père qui parle trop, est-ce que les enfants ne rentrent pas dans un silence? Vous voyez, donc, est-ce que ce silence-là, c'est pas ce qui a permis à tous ces enfants, à un moment, de pouvoir s'élever, de pouvoir contester? Il y a quelque chose, à mon avis, sur le silence comme lieu, comme une manière d'être au monde, le silence comme action dans le monde, le silence comme parole. Et je crois que le silence est aussi une parole. Et il m'intéresse, aujourd'hui, la question du silence m'intéresse énormément parce que je m'en suis rendu compte avec ce livre-là, c'est que tous les romans que j'ai écrits, c'est d'abord, je dirais, de vie minuscule qu'on n'entend pas. Donc il y a un silence et donc dans l'écriture des silences pour ce roman, parce que j'ai voulu qu'il soit assez court, parce qu'il faut pas qu'il soit bavard, donc j'ai essayé de travailler à la fois la concision et d'un point de vue formel des ellipses spatiales et temporelles, justement pour dire il y a des choses auxquelles on ne pourra jamais avoir accès. Et ces choses auxquelles on ne pourra jamais avoir accès, c'est ce qui va permettre au lecteur lui-même de rentrer en silence et aussi d'imaginer. Et ça, c'est aussi le travail de l'historien. C'est-à-dire qu'il y aura des choses dont on ne pourra jamais avoir accès. On travaille toujours en histoire avec des hypothèses vraisemblables. On essaie de reconstituer. Et le travail de l'historien, c'est justement de rendre le passé incertain. Or, beaucoup de gens pensent que le passé est connu, qu'il y a une espèce de certitude. Non, il y a une incertitude vis-à-vis du passé, comme il y a une incertitude vis-à-vis du futur. Et à partir du moment où on part de ce principe qu'il y a une incertitude du passé, il y a quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir avec le travail de l'historien, mais surtout, la place de l'imagination.
L'imagination, mais c'est silence, Rachid Benzine. Ces pères taiseux qui ne veulent pas alourdir le cartable de leurs enfants en mettant des pierres dedans. Ces silences, sont-ils pas plus lourds en fait que ces pierres?
Oui, en tout cas pour certains, ils sont devenus très lourds. On dit souvent les silences des pères et la colère des fils. Et il y a quelque chose qui se produit avec cette colère, parfois même, je dirais, cette haine. Mais lorsque ces silences-là sont... vous avez le silence individuel familial, c'est une chose. Mais lorsque ces silences-là sont organisés de manière collective dans une société, c'est ça qui me paraît globalement le plus dangereux. Parce que si vous avez un père silencieux, vous pouvez toujours chercher des figures paternelles qui peuvent être les amis, les oncles de votre propre famille. Vous pouvez aller chercher ces éléments-là puisque les amis de votre père vont le raconter, les oncles vont le raconter, puis vous allez vous dire j'ai accès à une partie de l'histoire de mon père. Ça, c'est d'un point de vue intime et c'est important. Mais lorsque ces silences-là sont organisés de manière collective et parfois même de manière étatique, c'est là où ça pose problème parce que ça dit la non-reconnaissance. Et moi, j'essaie de travailler globalement sur le lien entre le récit, les récits qu'on raconte, la notion de la reconnaissance qui donne le sentiment d'appartenance à une société pour pouvoir agir. Alors, Paul Ricoeur, il dirait comment on passe du texte à l'action. Et là, globalement, c'est comment le récit ouvre à l'action. C'est-à-dire que dans les récits, quand il y a quelque chose qui est raconté, ces vies minuscules qui s'inscrivent, ces petites histoires qui s'inscrivent dans une grande histoire, il y a quelque chose qui s'apaise. Le récit apaise. Et je trouve que c'est important de lorsque une société française se raconte, de compliquer les intrigues. Il n'y a pas qu'une seule intrigue.
Voilà, c'est ça. C'est pas un parc d'attractions qui serait extrêmement fascinant, très beau et lisible. Notre histoire est complexe, notre mémoire l'est tout autant, Paul Ricoeur.
Je crois que à l'époque où on avait publié les premiers de mes essais sous le titre de « Histoire et vérité », il y avait déjà le mot « histoire ». Et je ne m'étais pas intéressé à cette époque-là au problème de la mémoire. Je peux dire que c'est la partie neuve et relativement récente de mes recherches sur l'histoire comme projet de vérité. Et la question de la véracité de la mémoire est déjà non seulement un premier obstacle, mais une assise non seulement du problème, mais aussi des réponses que l'on peut donner. Parce que, disons-le tout de suite, si nous n'avions pas de mémoire, nous ne saurions pas du tout ce que signifie le mot « passé ». Alors, quelles que soient les faiblesses, et elles sont grandes, de la mémoire, c'est, d'une certaine façon, notre seul accès à ce qui, une fois, fut et qui, maintenant, n'est plus.
Nous étions en 1997 à Châtenay-Malabry, là où il habitait, Paul Ricoeur qui s'exprimait « mémoire, histoire ». L'histoire que vous racontez, Rachid Benzine, dans « Les silences des pères », c'est un roman, mais c'est une réflexion évidente sur la mémoire, sur l'histoire. D'ailleurs, il y a presque une démarche historique, on pourrait le dire, hein, parce que vous l'avez évoqué, il y a ces cassettes, et puis après, il y a l'enquête aussi. Le narrateur, parce que je ne dis pas que c'est vous, non, mais évidemment, le narrateur est en quête de quoi ? Il est en quête de mémoire ou d'histoire ? Et j'ai l'impression que c'est un peu des deux, parce qu'il essaye de comprendre aussi cette histoire de l'immigration.
Absolument, c'est-à-dire qu'il est à la quête de ce père qui lui semble inconnu. Il se met, effectivement, il traverse le pays comme dans une enquête. Et en même temps, au fur et à mesure qu'il traverse le pays, il entend parler d'un certain nombre de figures historiques, notamment quelqu'un comme Félix Mora, qui était un homme très important, qui a recruté plus de 80 000, certains historiens disent plus de 120 000 mineurs entre 63 et le début des années 80. Et il accède à des archives. Et ça, c'est de l'histoire. C'est-à-dire que, globalement, il rencontre les gens qui ont travaillé avec son père, qui étaient des amis, qui étaient des syndicalistes, des ouvriers, qui lui racontent une partie de son père. Et donc, ça, c'est la question de la mémoire. C'est la question de la mémoire. Et ensuite, en même temps, en allant découvrir ces lieux qui ont été quand même assez fondateurs dans la conscience collective ouvrière ou le camp des harkis avec cette question des silences, là, on a affaire à de l'histoire. Et moi, je suis plutôt partisan en disant, en fait, il y a plus de liens qu'on ne le pense entre la mémoire et l'histoire. Il n'y a pas la mémoire d'un côté et l'histoire de l'autre, et il n'y a possibilité de faire de l'histoire qu'en saisissant aussi la mémoire. Et dans la mémoire, il y a une part d'histoire, et dans la reconstruction de l'histoire, il y a aussi une part de mémoire. Et je pense que c'est important de pouvoir travailler complètement cette idée de la dialectique. Et ce que venait de dire Ricoeur sur la question de la véracité de la mémoire, qui me semble en tout cas important, et avec les conflits de mémoire auxquels nous assistons dans la société française, et justement le politique devrait aller vers comment on organise le dissensus des mémoires, parce que il y a un moment des conflits de mémoire, et il ne faut pas en avoir peur, hein. Il faut honorer le conflit, il faut y aller, c'est pas un problème, mais comment on organise le dissensus, et comment à un moment une partie de votre mémoire devient la mienne et comment une partie de ma mémoire devient la vôtre. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle mettre en commun nos récits, et je crois que une société, et il le dit Paul Ricoeur, c'est que une société, c'est l'ensemble des traditions qui se sont sédimentées à travers les siècles. Et donc, dès que l'on creuse cela, moi j'ai adoré creuser cette partie, je dirais des années 60 jusqu'à l'an 2000, j'ai découvert des choses, l'usine LIP, je ne connaissais absolument pas, à Besançon, les horlogers, comment des ouvriers se saisissent, d'une usine, et qu'il y a une espèce d'autogestion, et puis avec un slogan, on fabrique, on vend, on se paye. Et je trouve ça très intéressant aujourd'hui sur la question des combats collectifs. Comment on s'organise? Comment on fait du collectif? Et je trouve que on ne peut pas avancer soi-même, et une société, si elle ne s'appuie pas sur des traditions. Et c'est à partir de ces traditions, en allant, relire ces traditions. Alors Paul Ricoeur dit que, globalement, dans toute l'histoire, il y a toujours des promesses qui sont inachevées. Vous voyez? Et je trouve qu'il y avait, dans l'usine LIP, dans cette question de l'autogestion des ouvriers par des ouvriers d'une entreprise, là, il y a une espèce de conscientisation politique. La place des femmes était importante, parce que plus de 73% de ces femmes du collectif étaient des femmes, donc il y a des revendications qui vont devenir de plus en plus féministes, et je trouve ça très intéressant de retrouver ces traces qui peuvent être convoquées aujourd'hui, et dans leur convocation avec l'imagination, réouvrir globalement des possibles, là où on nous dit c'est un principe de réalité. Non, hein, le principe de réalité, c'est une construction sociale historique, il y a toujours possibilité de réactiver les choses autrement.
Oui, c'est ça. C'est que ici, nous avons un objet qui est fascinant, qui est cette mémoire individuelle, collective, familiale. Et vous le dites avec justesse, Rachid Benzine, ces mémoires ne sont pas antagonistes, mais pas question d'imposer une mémoire à tout le monde, parce que ça ne fonctionnerait jamais avec ce roman, Les Silences des Pères, que vous publiez aux éditions du Seuil. Un roman qui fait voyager, bien sûr, parce que Saint-Malo, Besançon, vous en avez parlé, Aubervilliers, Le Pont du Gard, pourquoi pas, Trappe, évidemment, mais aussi Lens.
Entre Valenciennes et Mazingarbe, on trouve 28 cités comme celle-ci. Ces petites maisons basses abritent, ici à Noyelles-sous-Lens, 117 ouvriers marocains. Recrutés par les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, ils travaillent à la mine, sont logés dans les maisons des houillères et vivent au rythme de la mine. Ces maisons groupées ont été construites spécialement pour eux, car elles constituent une catégorie très particulière de travailleurs immigrés. Recrutés dans le sud marocain, ils sont employés par les charbonnages, qui leur ont proposé des contrats précis, indiquant à la fois le salaire et surtout la durée de l'engagement, 18 mois pour le premier contrat.
Après que l'information ait été donnée dans les souks, les volontaires venaient et étaient donc ici arrêtés par un premier filtre. Ce filtre était composé de moi-même, où j'éliminais d'entrée de jeu, si je puis dire, tous les gens qui étaient manifestement trop âgés, trop jeunes ou atteints de malformations.
Il n'y avait pas d'identité, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'entretien, c'était pas le but recherché, c'était du muscle.
Félix Morat, recruteur pour les Charbonnages de France. Nous étions en 1979, pas très loin de Lens. Qui est Driss ?
Driss est l'ami du père, c'est-à-dire ce sont deux amis qui étaient dans le village, dans les villages du sud du Maroc, dans lesquels Félix Morat est venu recruter. Et moi, je découvre cette histoire de Félix Morat grâce à une écrivaine qui s'appelle Samira El Ayachi. Elle a écrit un très beau roman qui s'appelle Le Ventre des Hommes, où elle raconte cette lutte-là. Et c'est un personnage dont j'avais jamais entendu parler, même à l'école, on nous en avait jamais parlé. Et d'un seul coup, je découvre ce fameux personnage qui était un ancien militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ensuite va rester à Agadir pour apprendre l'arabe. Et donc, et ensuite, les Charbonnages de France, cherchant quelqu'un pour recruter des indigènes, c'est comme ça qu'on les appelait, je dirais, à l'époque, se proposent. Et il va, je dirais, circuler dans tout le sud du Maroc, chez les Amazirs, ce qu'on appelle les Berbères aussi. Et il va, c'est ce qu'il dit, il va regarder dans les yeux 1 million de Marocains. Et là, il recrute même parfois un père et son fils. Et donc, on vient de l'entendre, il dit, le recrutement, c'est simple, je n'étais pas venu pour parler, je cherchais du muscle. Et ensuite, il y avait ce fameux tampon qu'il mettait, je dirais, sur la poitrine. Si vous étiez vert, vous étiez apte à aller en France. Si c'était rouge, vous étiez absolument éliminé. Et donc, voilà que des hommes partent par milliers. Et là, ce qu'ils vont découvrir, c'est qu'en fait, ils viennent simplement de manière temporaire pour casser une grève. Parce que la grève de 1963 était quelque chose de fondamental dans la société française. Donc, où vous aviez des ouvriers qui réclamaient une augmentation des salaires, justement, et que face à cela, les houillères de France décident de venir chercher des Marocains, mais sans leur dire qu'ils vont remplacer des grèves. Donc, vous voyez, et lorsqu'ils arrivent, je dirais, ces Marocains, ils se retrouvent déjà en conflit avec la CGT et la CFDT et FO de l'époque, comme s'ils venaient quelque part voler le pain des ouvriers. Et c'est souvent un discours qu'on entend encore aujourd'hui, comme si ils venaient voler le pain des Français. Vous voyez, donc c'est un discours qui revient souvent. Et donc ils n'ont plus que le statut de travailleurs. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir une solidarité entre les ouvriers pour faire face justement aux houillères. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est globalement comment des petites gens, à un moment, deviennent des acteurs de, je dirais, de la grande histoire et de ces petites histoires. Et je trouve que ça, c'est important, je dirais, ce principe de solidarité, malgré les difficultés, puisque lorsque vous descendiez à 1000 mètres, la plupart des mineurs ont eu la silicose. Voilà, donc ils mouraient très jeunes. La plupart, globalement, si vous regardez leurs mains, c'est ce que j'essaie de raconter, parce qu'il y a quelqu'un Il s'appelle Driss Fnin dans le texte, qui est l'ami de ce père qui sont partis tous les deux dans les années 60. Les phalanges de sa main sont, il ne bouge plus. C'est-à-dire que à force d'avoir extrait du charbon, et c'est la morphologie de la main ne fonctionne plus. Et je trouve, ça m'émeut beaucoup lorsque je rencontre des gens comme cela, de voir que il y a dans leur corps les traces d'une histoire française. C'est-à-dire qu'ils portent une trace, ils portent une mémoire. Leur corps porte cela. Et d'essayer d'écrire les conditions de travail dans les mines, ce qu'ils ont pu vivre les uns et les autres, parce qu'il y a aussi, les silences, mais il y a aussi la solitude. Lorsque vous n'êtes plus que travailleur, lorsque votre famille n'est plus là, lorsque votre village n'est plus là, et qu'on vient vous chercher uniquement pour la question du muscle. Et ça, il y a quelque chose, me semble-t-il, de très très réducteur, et c'est pas facile quelque chose à vivre, en tout cas pour ces hommes-là.
Avec ces traces laissées même chez ses pères taiseux, qui laissent ces cassettes et que l'on peut écouter, qui laissent aussi toutes ces traces, ou plutôt que la vie laisse sur leur corps. Parce que c'est vraiment ça, c'est que l'on n'échappe jamais à son histoire. Encore faut-il pouvoir la comprendre dans la démarche que vous avez, Rachid Benzine, en écrivant ce roman « Les silences des pères ». Il y a aussi, et on le sent nettement, à vous écouter, un effet générationnel. C'est pas un hasard si vous avez écrit également « Ainsi parlait ma mère ». L'effet de génération, ça, c'est du temps qui passe, c'est de la chronologie. Et ça explique beaucoup de choses.
Absolument, c'est-à-dire qu'effectivement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire un hommage, une forme de reconnaissance de ces vies-là, de parents. Effectivement, il y a « Ainsi parlait ma mère » et « Les silences des pères » comme une espèce de diptyque que je voulais raconter, et en même temps il n'y a possibilité de raconter que si on prend la question du temps et des générations. Et je trouve que la question générationnelle, la question de la filiation est quelque chose, je dirais, qui me traverse, et je crois que ça pose aussi la question de la transmission, et je trouve ça très intéressant de se dire comment on transmet globalement aujourd'hui avec ce que François Herzog appelle les régimes d'historicité, un régime d'historicité sur le présentisme qui se déploie sur l'immédiateté et l'instantanéité. Et c'est pour ça que le rapport à l'histoire me semble très important, parce que le rapport à l'histoire introduit de l'épaisseur, introduit du temps. Et c'est important de prendre le temps. Saint Augustin disait « Le temps, je sais ce que c'est, mais dès que je peux en parler, dès que j'en parle, je ne sais plus. » Et dans les travaux de Paul Ricoeur dans « Temps et récit », il dit justement que face à cette question du temps, nous arrivons à une aporie. Il y a une impossibilité à dire le temps. Et le récit, justement, prend en charge la question du temps. Mais qu'est-ce que c'est que l'être humain ? C'est d'abord un être narratif, de la narration, un être qui a besoin de la temporalité. Et je trouve ça très important dans notre rapport à l'histoire d'inscrire cela.
Je fais mon déménagement, la vie de l'immigré triste. Du travail a plus tellement, il y a beaucoup de racistes. Je fais mon déménagement, la vie de l'immigré triste. Du travail a plus tellement, il y a beaucoup de racisme. Vingt ans que je vis à Paris, toujours je ne possède rien. En Algérie où ça commence à aller très bien. 20 ans que je vis à Paris, toujours je ne possède rien. Je retourne en Algérie, ça commence à aller très bien. Bientôt je vous fais un pari, on sera mieux que l'Irica. L'Algérie en Algérie, je fais mon déménagement. La vie de l'immigré est triste. Du travail a plus tellement, il y a beaucoup de racistes. L'Algérie c'est tout nouveau.
Salah Sadawi qui chante Déménagement, c'était en 1985. Rachid Benzine, dans ses narrations de vie, ses vies modestes, celles que j'allais dire vous étudiez, mais non, vous écrivez, vous êtes romancier, vous n'êtes pas historien dans cette démarche-là, mais enfin quand même, on se comprend. Il y a ces vies calmes, en fait, de gens qui n'ont de rupture de vie qu'à certains moments. Un déménagement, je quitte, en l'occurrence l'Algérie, ou je quitte le Maroc et j'arrive et puis après je travaille. En fait, des vies qui ne devraient pas faire de bruit en soi, mais qui, quand on se plonge dans le détail, croisent toutes ces histoires du syndicalisme. Vous l'avez dit, c'est là où l'ampleur d'une vie est en train de d'apparaître devant nous.
Absolument, et c'est important de dire que nos parents ont eu une vie avant nous. C'est très important de dire qu'ils ont été jeunes, qu'ils ont été amoureux, qu'ils ont aimé la musique. Là, on vient d'écouter Salah Saadawi sur et j'écoutais, et c'est très intéressant d'essayer de... Il dit une époque, et c'est ça, il dit une époque avec à la fois de la musique algérienne, Chaabi, ce qu'on appelle la musique populaire, mais il le dit aussi avec des mots français. Donc c'est intéressant de savoir comment cette population, ces gens, se sont appropriés une culture à travers les mots. Et donc, c'est marrant parce que en écoutant ça, je pensais à une espèce de chronique et beaucoup de rappeurs racontent ce qu'ils voient, que ça soit le rappeur Fianso ou le rappeur Medine ou autre qui raconte un peu cela. Et j'ai été très étonné de voir que dans cette chanson, il y a à la fois l'espoir de revenir et en fait un espoir qui va être déçu parce que la plupart mourront dans les pays d'accueil. Et ça on le voit de plus en plus. Et ensuite, il savait qu'en partant, il ne reviendrait plus. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est important. Puis la place du racisme. Et ça, c'est quelque chose, quand on revisite, je dirais, l'histoire de France, et notamment dans le roman, ce père qui travaillait dans le sud, en Camargue, maraîcher, et qui a une Peugeot 103. Et justement, lorsqu'il roule, il y a des camions qui essayent de le pousser vers la fosse pour qu'il puisse tomber. Et je trouve ça très intéressant de montrer, je dirais, à la population française et aux enfants de l'immigration que ces pères-là se sont battus. Et je trouve c'est important parce que pour moi, il est question ici de dignité. Et c'est important, je dirais, de le montrer parce que globalement, la dignité, c'est ce qui vous reste quand vous avez tout perdu. Et ça, je trouve, c'est un message qui est très fort pour la jeune génération qui parfois ne se retrouve pas, qui parfois ne se reconnaît pas dans une histoire. Mais en travaillant véritablement dans ce roman-là, j'ai pensé pendant très longtemps que la question des silences était la question de l'exil, de l'immigration. Mais lorsque j'allais en province et que je présentais les autres romans ou d'autres conférences qui sont liées à mon travail universitaire, quand je disais, voilà, j'ai ce projet des silences des pères, j'avais plein d'enfants de 40 ans, 50 ans, qui viennent me dire, mon père est aussi silencieux. Et donc, on voit bien que la question des silences, c'est pas simplement l'immigration générationnelle, mais c'est aussi peut-être une question du masculin. Et ça m'interroge.
J'allais vous poser la question parce que ce roman, Les silences des pères, fait écho à un autre de vos romans, Rachid Benzine, Ainsi parlait ma mère. Oui, il y a peut-être, et là je parle plus de votre ressenti que d'une analyse, quelque chose de très masculin dans ces silences.
Oui, j'ai l'impression, c'est comme si finalement, dans le partage traditionnel qu'on a eu pendant très longtemps, c'était les mères qui élevaient les enfants. Et donc, à partir du moment où vous élevez les enfants, vous les éduquez, vous construisez des souvenirs avec eux. Mais à partir du moment où votre père travaille, moi j'avais mon père, il se levait vers 3h30, 4h du matin, il priait et il partait sur les chantiers et il revenait vers 19h. Il rentrait à la maison, il faisait ses ablutions, ses prières, il passait une heure avec nous. Et il allait se coucher parce qu'il fallait qu'il se lève à 3h du matin. Donc j'ai eu un père silencieux, un père taiseux, avec lequel vous ne construisez pas beaucoup de souvenirs. Et au moment de la vieillesse, au moment de la retraite, la distance est tellement grande, et les pères taiseux, silencieux, qui sont souvent des pères en souffrance, qui n'arrivent pas à dire les choses, ne trouvent plus les chemins d'accès à leurs enfants. Et leurs enfants, sentant cela, sentant ces drames de manière silencieuse, n'osent pas aller parler à leur père, tout simplement parce que peut-être qu'ils ne savent pas quoi faire de ce qu'il va leur dire. Et ça, je l'ai vu vraiment en province, c'était plein de gens sont venus me le dire. Je dirais cette même condition ouvrière, chez les fils de l'immigration ou pas, il y a quelque chose, je dirais, de masculin sur ces questions de silence.
Et puis parfois, les enfants trouvent le chemin, alors, pas vers leur père, mais vers leur mère, sans parler, tout simplement en lisant.
Vêtue d'une robe de cachemire bleu, la comtesse était étendue sur un divan, les pieds sur un coussin. Un béret oriental, coiffure que les peintres attribuent aux premiers Hébreux, avait ajouté je ne sais quel piquant attrait d'étrangeté à ses séductions. Sa figure était empreinte d'un charme fugitif qui semblait prouver que nous sommes à chaque instant des êtres nouveaux, uniques, sans aucune similitude avec le « nous » de l'avenir et le « nous » du passé. Je ne l'avais jamais vue aussi éclatante.
Maïwenn Guizhou qui lisait un extrait de La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, ainsi parlait ma mère. Balzac, omniprésent dans votre roman Rachid Benzine, qui est un autre dialogue avec les parents. Ici, c'est la maman. C'est aussi un dialogue difficile. Il y a vraiment, dans votre réflexion, ce dialogue de génération et cette difficile transmission.
Absolument, parce que il y a, je pense, mais c'est lié aussi à notre rapport au temps qui a changé. Notre rapport au temps, il a tellement changé avec cette idée de l'immédiateté, de l'instantanéité, qu'il y a une impossibilité à transmettre. Et on le voit bien au niveau de l'école, il y a quelque chose qui relève d'une impossibilité à transmettre. Dans les églises, mosquées, il y a une impossibilité à transmettre. Il y a quelque chose qui doit nous amener à se dire comment on transmet dans un régime de temporalité qui est celui de l'immédiateté et de l'instantanéité. Et ça, c'est quelque chose, globalement, qui n'est pas facile. Et ensuite, quand vous avez toute une génération qui est en train de mourir, comment capter ces récits et ces mémoires avec cette difficulté-là qu'effectivement, il y a quelque chose d'infranchissable. Et on le voit bien, notamment dans Ainsi parlait ma mère, c'est le fils qui est un professeur de littérature, qui revient vivre chez sa mère parce que malade, alité, les autres frères ayant fait leur vie et sont partis ailleurs, il va prendre soin de cette mère et ça pose la question, globalement, c'est que faisons-nous de nos parents lorsqu'ils vieillissent? Et ça, pour moi, c'est la question du lien, c'est la question générationnelle. Est-ce qu'on les met dans des EHPAD ou on essaye de faire en sorte qu'ils puissent finir leur vie dans l'appartement dans lequel ils ont grandi, avec des enfants, je dirais, qui s'impliquent, parce qu'on a une dette. Et on a cette mère qui est alitée et ce fils qui, pour la première fois, parce que l'infirmière ne vient pas, doit lui faire la toilette. Et donc il prend quelque chose qui est de l'ordre du tabou, il va faire la toilette de cette mère et chaque partie du corps qu'il va laver va convoquer une mémoire et un souvenir. Et cette mère qui adorait Peau de chagrin de Balzac parce qu'elle l'a appris avec des cassettes, elle s'approprie Peau de chagrin, elle s'approprie une histoire, je dirais, française avec un conte oriental à l'intérieur, je dirais, de ce roman avec toute une réflexion sur la question du pouvoir, du savoir et du vouloir. Donc, des questions philosophiques. Elle va apprendre par cœur, à force de répéter cette cassette-là et d'entendre cette cassette, pour rejoindre son fils dans l'espace de la littérature. Ils vont partager ensemble. Et cette femme-là s'approprie une culture française, notamment grâce à la chanson populaire, puisqu'elle est secrètement amoureuse de Sacha Distel. Voilà, et donc je laisse vos éditeurs découvrir, je dirais, ces vies minuscules, mais qui en vérité, lorsqu'on met une loupe dessus, deviennent des vies extraordinaires et racontent une partie de notre histoire.
Ah bah oui, toute la pluie tombe sur moi. Dans Le silence des pères, le narrateur est pianiste. Dans Ainsi parlait ma mère, il est professeur de lettres. Vous, Rachid Benzine, l'histoire par les études a été présente, mais, très proche.
Mais elle a été très, très présente, mais dès l'âge de 15 ans, d'abord, un jour, je tombe sur un ouvrage d'un théologien allemand qui s'appelle Eugène Drewermann, De la naissance des dieux à la naissance du Christ. Et comme j'avais des amis chrétiens, donc je vais lire. Et puis, il a un rapport à l'histoire, qui d'un seul coup vient complètement me bouleverser dans ma foi, dans ma manière de regarder les textes. Et ensuite, je me mets à lire aussi les évangiles, l'approche historico-critique avec toutes les formes d'école, et je me suis dit, ce rapport au texte, ce rapport à l'histoire me plaît beaucoup, parce que il parle d'un monde que je ne connais pas. Et donc, du coup, c'était très intéressant dans ce rapport au temps que j'ai essayé de faire, notamment sur le Coran, en disant bah, d'abord, le discours coranique, avant de s'adresser à nous, il s'adresse à des gens qui ne sont pas nous. C'est important parce que ça permet d'avoir un peu d'humilité. Voilà, ça permet de ne pas projeter complètement ses désirs et ce qu'on a dans la tête sur le texte, que le texte doit résister. Voilà, quelque part, il doit résister au lecteur et qu'il arrive dans une culture avec des représentations qui ne sont pas les nôtres, avec des hommes qui ne sont pas nous, une culture qui n'est pas nous, une langue qui n'est pas la nôtre. Et donc, du coup, il y a automatiquement dans cet acte, et ça je l'ai appris chez Paul Ricoeur, sur la question de l'herméneutique des textes, la question de l'interprétation, il y a automatiquement, je dirais, un double mouvement, qui est celui d'abord de la distance et celui de l'appartenance. Voilà, j'appartiens à une culture, mais pour l'idée de l'appartenance n'est possible que si je mets une distance. Vous voyez, donc, et le travail de l'histoire me passionne à la fois d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue méthodologique, et en même temps, toutes ces écoles et l'histoire des mentalités et l'histoire des représentations. Et je trouve ça très important parce que c'est à partir du moment où on change de représentation qui a la conversion du sujet quelque part, qui a une possibilité de voir autrement. Et à partir du moment où vous travaillez d'un point de vue littéraire, et notamment à travers l'histoire, où vous donnez une autre représentation de ce que vous aviez en tête, d'un seul coup, votre esprit et vos actions changent.
Pour l'islam, et le Coran en l'occurrence, ouais. Parce que vous dites là, c'est vrai que c'est un peu la base de la pensée que les gens du passé ne sont pas nous, n'ont pas le même vécu, la même représentation du monde, mais que ça n'enlève pas que le texte sacré demeure. Quand vous avez aujourd'hui un regard, Rachid Benzine, sur ceux qui prônent l'islam radical, y a comme la même compréhension que vous de dire ce n'est plus pareil et un fantasme absolu de revenir à un monde d'avant, celui qui aurait été les gens qui ont lu le Coran pour la première fois, quelque chose d'absolument fantasmé.
Absolument, mais là, il y a une double problématique. Tout d'abord, il y a le fantasme de l'origine, c'est important, et puis il y a le fantasme de la représentation de l'origine. Et à partir du moment où ils n'ont pas accès à l'histoire, ils se racontent des histoires et ça finit par faire des histoires qui parfois deviennent malheureuses avec la question de la violence. Et donc on voit bien que le rapport à l'histoire, il est fondamental, notamment dans les traditions religieuses, parce que les textes religieux peuvent devenir liberticides, une lecture peut devenir absolument incendiaire. Et je crois que à la fois le théologique et l'histoire sauvent le religieux, je dirais vraiment, des fanatiques. Et que ce qu'on devrait d'abord apprendre aux enfants, c'est que pour faire de l'histoire, il faut d'abord définir un temps, un lieu et un groupe humain. Et le temps, c'est la chronologie. Hein. On peut pas parler de l'islam en général. Ça n'a pas beaucoup de sens. Soit je prends, en disant l'islam au 7e siècle, un temps, un lieu, on est dans une géographie, et que la question de la géographie influence automatiquement le texte. Donc la nécessité de connaître le terrain comme un archéologue. Et ensuite des hommes. Et là, c'est l'anthropologie à laquelle on doit faire appel. Et ça, c'est important parce que c'est à partir du moment où je mets le texte dans son contexte que je peux me le réapproprier. Mais la réappropriation pour le lire autrement, pour dire, en fait, qu'est-ce qu'il voudrait dire aujourd'hui sur la question du sens et la question de la signification, comment il peut être signifiant aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui me semble fondamental et c'est la seule manière, je dirais, de résister au texte. Mais on voit bien que les textes religieux, pour beaucoup de gens, c'est comme un supermarché. Et chacun y va à coup de verset, que l'on soit, je dirais, appartenant à cette tradition ou pas. Et donc, on a verset contre verset, ça devient une espèce de controverse. Et lorsque vous avez aujourd'hui le monde politique qui va dire, c'est marqué dans le Coran, écoutez, un peu de méthode, un peu d'exégèse, un peu d'herméneutique, ça nous ferait quand même beaucoup de bien.
Et vous écoutez Rachid Benzine, nous fait beaucoup de bien parce que mettre de la pensée dans notre monde ne le rend pas plus complexe. Au contraire, ça le rend beaucoup plus clair. Merci vivement à vous. Les silences des pères, c'est votre roman publié au Seuil. Et puis, il y a les autres, Voyage au bout de l'enfance. Et bien sûr, Ainsi parlait ma mère. Merci vivement à vous. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi la féministe afro-américaine Claudia Jones fut-elle pourchassée par le FBI ? Dans ma chronique d'aujourd'hui, j'évoquerai l'histoire d'une militante très souvent oubliée par les partisans de l'intersectionnalité, en tout cas en France, alors qu'elle a été l'une des premières à développer des analyses s'inscrivant dans cette perspective. Il s'agit de Claudia Vera Cumberbatch, plus connue sous le nom de Claudia Jones, un pseudonyme qu'elle a adopté pour échapper à la répression dont ont été victimes les militants communistes aux États-Unis. Née en 1915 sur l'île de Trinidad, qui était alors une colonie britannique, elle a émigré à New York quand elle avait 9 ans. Son père, qui était rédacteur en chef d'un journal antillais, a dû accepter un emploi de surveillant d'immeuble. Ce déclassement explique que Claudia a vécu une bonne partie de son enfance dans la pauvreté. Atteinte par la tuberculose à l'âge de 17 ans, elle en garda des séquelles jusqu'à la fin de sa vie. Très bonne élève, elle n'a pas eu la possibilité de poursuivre ses études à l'université car elle a dû d'abord gagner sa vie en travaillant comme ouvrière dans plusieurs entreprises locales. En 1936, elle a rejoint le mouvement de la jeunesse communiste. Son éloquence en tant qu'écrivain et conférencière, son efficacité en tant qu'organisatrice et sa connaissance de la théorie marxiste ont accéléré son ascension dans les rangs du parti. En 1943, elle a pris la direction de Spotlight, le journal mensuel de l'American Youth for Democracy. 2 ans plus tard, elle est devenue la rédactrice en chef de Negro Affairs, une revue affiliée au Daily Worker, l'organe central du Parti communiste des États-Unis. Élue présidente de la Commission nationale des femmes du Parti communiste en 1947, elle a publié de nombreux articles dans lesquels elle a formulé pour la première fois la théorie de la triple oppression des femmes noires au sein de la classe ouvrière. Dès l'été 1943, le FBI a placé Claudia Jones sur la liste des individus subversifs susceptibles d'être emprisonnés. Arrêtée en 1948, elle fut condamnée à l'expulsion en tant qu'immigrée étrangère. Restée libre pendant que son affaire était instruite en appel, elle fut à nouveau arrêtée en 1951 avec plusieurs autres militants communistes et emprisonnée pour activité contre le gouvernement des États-Unis. Elle fut finalement expulsée vers le Royaume-Uni à la fin de l'année 1955. À peine arrivée à Londres, elle reprit ses activités militantes. Elle a joué un rôle de premier plan dans la communauté antillaise en fondant The West Indian Gazette, le premier journal noir britannique, et aussi le Carnaval des Caraïbes, un événement culturel qui attire désormais quelques 2 millions de personnes chaque année. Claudia Jones est morte d'une crise cardiaque le 24 décembre 1964 à l'âge de 49 ans. Elle est rarement citée aujourd'hui comme une pionnière de l'intersectionnalité, sans doute parce qu'elle n'utilisait pas ce mot, mais aussi parce qu'elle privilégiait le critère de la classe sur les autres facteurs d'exclusion sociale. Elle a été enterrée au cimetière de Highgate, au nord de Londres, dans une tombe située à proximité de celle de Karl Marx.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec à la technique aujourd'hui Ludovic Auger. Émission préparée par Mayouen Guizhou, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Copet et Raphaël Laloum. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et à la Discothèque de Radio France pour leur aide. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster cette émission et toutes les précédentes sur le site internet franceculture.fr et évidemment sur la superbe appli Radio France.